Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur cette libre antenne du samedi. Bienvenue dans cette grande famille qui est la vôtre et qui s'agrandit puisque d'après les derniers sondages Médiamétrie, vous êtes 86 000 nouveaux auditeurs à nous avoir rejoints chaque samedi soir et je vous en remercie. Merci donc aux nouveaux, merci aux anciens, aux fidèles bien sûr grâce à qui l'émission se tricote chaque soir sur un tempo différent. Parce que même si certaines histoires se ressemblent, nous sommes tous différents. Et surtout la manière dont nous réagissons à ce qui se passe est différente et c'est ça qui est enrichissant. Alors 86 000 nouveaux auditeurs, ça fait beaucoup, on va se serrer un peu ce soir pour pouvoir leur laisser la place qu'ils méritent. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin et je suis là pour vous accueillir et vous écouter. Si vous avez envie de parler, de vous confier, appelez-moi au 39 21. Vous êtes aussi nombreux chaque soir à participer à notre émission par SMS. Vous réagissez, vous commentez, vous apportez du soutien ou une idée. Alors si vous voulez le faire ce soir, c'est facile, vous tapez le 7 39 21 suivi du mot « nuit ». Et de votre message, pensez s'il vous plaît à signer de votre prénom si vous voulez que je partage à l'antenne ce message. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Toute l'équipe de la Libre Antenne du week-end est là pour vous ce soir encore. Fabrice Fougeroz à la réalisation, Estelle et Maxime au standard et moi à l'autre bout du téléphone. Alors venez, on vous attend.
23h, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et ma question du jour pour mieux vous connaître est la suivante. Écoutez-vous plus ou moins la radio depuis le confinement? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? N'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS pour me répondre, 739-21, en commençant par le mot nuit.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 39-21. 50 centimes la minute.
Et je commence l'émission de ce soir avec l'appel de Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci, merci de me recevoir.
Vous ne seriez pas un peu du sud-ouest par hasard?
Un peu beaucoup, oui, tout à fait.
Ça s'entend. Pas du tout.
Un petit peu.
Qu'est-ce qui vous amène Jean-Pierre alors?
Eh bien écoutez, oui, j'avais sollicité un petit peu vos services pour faire connaître un petit peu le petit souci, le petit problème que nous rencontrons ici. Donc je vous appelle d'Anglette, au Pays Basque, sur la côte basque, à côté de Biarritz. Donc c'était pour faire savoir un petit peu, si vous voulez mieux, je suis malvoyant depuis, je souffre d'une maladie aux yeux depuis une trentaine d'années. Depuis l'âge de 18 ans à peu près. Mmh. Et donc j'ai toujours été amateur de sport en général et de rugby en particulier. Donc voilà, ici on suit une équipe de rugby qui est le Biarritz Olympique Pays Basque. Voilà, cher à tous les supporters ici du Pays Basque et de M. Serge Blanco, entre autres.
J'ai une petite pensée pour Christophe Ondelat, qui doit être aussi un fan.
Ah, complètement, qui vient de chez nous, exactement.
Oui, bien sûr.
C'est ça, ouais, qui a une super émission d'ailleurs, à 14h, tout à fait, que j'écoute aussi, ouais. Voilà. Et donc, écoutez, oui, donc le sujet, je voulais faire un peu partager avec un petit peu tout le monde. Comme actuellement, on vit la semaine de l'handicap, des personnes handicapées, des travailleurs souffrant d'handicap et des travailleurs reconnus handicapés. Quoi. Donc, j'ai contacté, si vous voulez mieux, un petit peu beaucoup de monde, des radios. J'ai contacté par courrier, lettre recommandée, la présidente de Radio France, Madame Sybille Veil. Ensuite, le président du groupe France Bleu, Monsieur Jean-Emmanuel Casalta, et puis tous les ministres, ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, la secrétaire d'État chargée auprès des personnes handicapées, Sophie Cluzel, pour leur faire savoir un petit peu ce qui se passait, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, le président du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Monsieur Roch-Olivier Mestre, et ainsi que Madame Brigitte Macron, qui était partisante, on va dire, pour essayer d'aider les personnes handicapées, souffrant d'handicap. Donc voilà. Mon petit souci, donc, comme je vous le disais, je suis donc amateur de sport et donc de rugby. Et je suis le rugby depuis des années, donc ce club, le Biarritz Olympique Pays Basque. Et pour moi, c'était important de pouvoir suivre les matchs et la retransmission de tous les matchs, quoi. À la radio, quoi. Ouais. Moi qui écoute beaucoup les radios, toutes les radios, dont la vôtre aussi, entre autres. Bon, pas que, hein, évidemment, mais... Et donc, depuis le mois de septembre, ils ont décidé d'arrêter de retransmettre les matchs à la radio. France Bleu, pour pas la nommer France Bleu Pays Basque, là, chez nous. Voilà, par un arrêt comme ça, brutal.
Pour quelle raison ?
Mais ils invoquent une raison, pour moi, qui n'est pas trop valable. C'est-à-dire, ils ont décidé de ne plus retransmettre les matchs, comme quoi ils ne pouvaient plus travailler convenablement au club. Alors qu'ils peuvent venir vraiment en tribune de presse, quoi, pour retransmettre le match avec leur matériel, console, micro-casque, etc. Donc les journalistes sportifs, quoi. Voilà, donc pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'ici, vous savez, au Pays Basque, il y a une petite... on va dire une petite guéguerre.
Une guéguerre, oui, c'est ce que j'allais vous dire, ça, sent un peu à ça, ça ressemble un peu à ça.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un petit... les derbies, comme on appelle, vous savez, en rugby, Biarritz-Bayonne, quoi. Et donc, on veut mettre un petit peu ici en avant, beaucoup plus depuis, on va dire, allez, une quinzaine d'années. On veut essayer de remettre devant sur le devant de la scène le club de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro, si vous voulez mieux. Donc, voilà, le maire de la ville de Bayonne... et M. Jean-René Tchilaray, qui est président de l'Aglo aussi en même temps. Voilà, donc avec la presse écrite, Sud-Ouest, font tout pour décliner un petit peu le club, avec les nouveaux dirigeants qui sont arrivés et actionnaires depuis deux ans, depuis 2018, quoi. Même pas, ils étaient encore arrivés ici, vous voyez, pour reprendre les rênes du club, qu'on a été leur chercher des noises, enfin, aller chercher dans leur vie privée, vous voyez, faire des articles pour les descendre, quoi. Enfin, bon. Voilà, ça fait que donc maintenant ils ont pris un petit peu tout le monde en otage, dont nous, moi j'essaye de me faire un petit peu comme ça, mais juste vraiment comme ça, hein, porte-parole de tous les supporters, quoi. Déjà moi-même en étant malvoyant, c'est compliqué de pouvoir suivre les matchs. Je suis abonné en plus au club depuis une douzaine d'années, donc avec ma carte d'abonnement, avec mes amis, je me rends au stade, et puis grâce à mon petit baladeur radio, vous voyez, avec une petite pile et mes oreillettes, je pouvais suivre les matchs comme ça, quoi. Par le biais des journalistes qui décrivent ce qui se passe sur le terrain. Donc,
oui, bien sûr.
Donc, avec l'ambiance, etc., c'était super bien. Et là, ben, c'est un petit peu compliqué. C'est mes amis qui me décrivent les actions, mais c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. C'est totalement différent, quoi. Et alors, voilà, c'est vrai que c'est une radio, quand même, du service d'État, du service d'État, une radio du service public, quoi. Donc... comment on peut décider comme ça de tout stopper et d'empêcher, mais pas que des personnes non plus souffrant d'handicap, quoi. Toutes les personnes à mobilité réduite, les personnes aussi en précarité, puis vu la conjoncture actuelle que nous vivons avec la Covid, quoi. Bon, là, c'est vrai que c'est plus trop le cas, comme tous les matchs sont à huis clos pour l'instant.
Bon. Et ça fait combien de temps là que ça a stoppé, voilà, ces diffusions?
Alors, les matchs jusqu'à présent, ça faisait plus de... on allait entamer la 21e année, vous voyez, sans arrêt. Sans avoir stoppé. Et là, depuis le mois de septembre, le championnat a repris pour nous le 3 septembre là, de 2020. Et là, ils ont décidé comme ça, sans rien dire, ils n'allaient plus retransmettre les matchs. Voilà. Par contre, ils continuent à retransmettre les matchs du club voisin de Bayonne, quoi. De la Gironde bayonnaise. Oui. Alors bon, moi, j'ai rien contre... moi, je veux dire, nous, on n'a rien en tant que supporters Biarro. On ne veut pas se mêler à tout ce qui se passe, quoi. Même si on peut avoir un parti pris ou pas. Mais on peut comprendre que... oui, on peut se mettre à leur place, quoi. C'est sûr que c'est difficile, mais... attendez. Ouais, voilà, quoi. Attendez, comme je disais, c'est quand même pas trop normal. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire bouger les choses en envoyant tous ces courriers de réclamation.
Pour l'instant, des réponses, des réactions?
Voilà, mais rien du tout, rien pour l'instant. À part un courrier du chef de cabinet de notre président, M. Emmanuel Macron, je crois que c'est Brice Blondel qui m'a dit qu'ils avaient bien pris connaissance de notre courrier, quoi, mais de notre lettre de réclamation, mais bon. Voilà, j'ai reçu les retours des recommandés, mais pas de courrier, rien, quoi. Et puis c'est parti le 21 octobre, le mois dernier, quoi. Alors, on a essayé de faire bouger un petit peu les choses depuis, là, ce mercredi, sur tous les réseaux sociaux, vous voyez, sur Twitter... ouais, on a fait un petit peu, on a essayé de taguer, tweeter un petit peu tout le monde, mais bon. Alors, je ne sais pas si, comme une radio comme la vôtre, comme Europe 1, qui a aussi une rubrique de sport, etc., et puis peut-être qu'il y a une bonne écoute, est-ce que ça pouvait faire bouger
Je ne suis pas très, tout à fait convaincue qu'on ait le moindre poids sur la radio publique. Hein. C'est, ils sont à l'opposé de chez nous, c'est forcément.
C'est sûr, forcément.
Mais bon, le message est passé, vous avez raison. Après tout, plus on en parle, plus ça a des chances d'arriver un jour quelque part.
Mais oui, c'est ça, ouais, exactement.
Bien sûr, je comprends tout à fait votre démarche.
Voilà,
Vous, Jean-Pierre, votre vie, elle ressemble à quoi? Vous travaillez, vous faites du sport?
Alors, travailler, faire du sport, on va dire du sport, j'ai eu fait en salle de sport, vous voyez, comme ça, c'est vrai, étant que, ouais, en tant que malvoyant. Je me suis retourné, quand j'ai eu ça aux yeux, je me suis retourné vers la musique. Ça faisait en fait des années, depuis tout pitchoun, comme on dit chez nous au Pays Basque, tout pitchoun, j'avais toujours voulu faire depuis là, je devais avoir quoi, 6-7 ans. Je voulais faire comme instrument de musique de la batterie. Mmh. Voilà, donc je m'y suis mis après, à l'âge de là, 18 ans, quoi. Voilà, mon papa m'avait fait aménager dans le grenier une petite pièce comme ça où j'ai pu acheter une petite batterie en occasion, quoi, d'occasion. Et j'avais eu du mal à trouver un professeur de batterie au départ, et puis au bout d'un an et demi, par le biais d'un ami à moi qui jouait de la guitare, j'ai pu il prenait des cours avec un professeur de guitare, et son frère lui-même était batteur et professeur de batterie, voilà, les frères Blancs, Philippe et Mao, qui sont assez connus, hein, voilà. Donc voilà, je me suis mis à faire de la batterie comme ça tout seul, et puis après avec des copains, on a monté un petit groupe comme ça, de quartier, comme on dit. Hein.
C'est sympa.
Et puis voilà, après j'ai pu monter et intégrer d'autres groupes, voilà, différents styles de musique. Quoi. Après sinon, je fais beaucoup de marches, enfin beaucoup, un petit peu moins depuis quelques temps, mais on aime bien faire beaucoup de rando ici, autant que ce soit au Pays Basque, mais plutôt sur les Hautes-Pyrénées. Quoi. J'essaie d'occuper le temps. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, dès qu'on veut essayer, j'ai toujours été justement attiré par le milieu de la radio, les métiers de la radio. J'avais fait d'ailleurs une démarche auprès de France Bleu, encore Pays Basque, pour savoir si c'était possible d'intégrer la radio pour faire ne serait-ce qu'en premier temps un stage ou comme ça pour être animateur de radio. Mais bon, au début, j'avais pas dit, vous voyez, j'avais mis volontairement le fait de dire que j'étais malvoyant, pour voir si ça pouvait passer. Mmh. Donc on avait fait la visite de tous les studios, etc. Et au bout d'une heure et demie à peu près de discussion et de visite, oui, c'est possible, Jean-Pierre, avec grand plaisir. Et puis, il n'y a pas contre, j'ai oublié de vous dire que voilà, j'étais malvoyant, enfin, je suis malvoyant. Et, ah non, là, ça va peut-être, là, ça risque d'être compliqué, là, vous voyez. Non, non, tout est par écran. Et, alors j'avais fait une formation, un an et demi avant, avec assistance, un logiciel à synthèse vocale, type de JAWS, sur PC, donc je pouvais vraiment me brancher avec mon ordinateur portable, enfin, vous voyez. Voilà, ils n'ont rien voulu savoir, malheureusement. C'est vrai que c'est difficile. Hein.
Jean-Pierre, on marque une pause et on reprend cette conversation tout de suite. Merci.
Ok, Sabine.
Jean-Pierre.
Oui, Sabine.
Vous êtes sûr qu'ils vous ont mis de côté comme ça à cause de ce handicap? Que c'est pas simplement parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, pas de place pour vous à ce moment-là?
Je sais pas. Oui, je dis ça, mais le moment. Sur le moment, après, ça fait déjà 5-6 ans, oui, à peu près. Mais bon. Oui, non, on peut pas dire ça comme ça non plus, hein. Attention, c'est vrai. Mais bon, je l'ai ressenti comme ça, quoi, vous voyez.
Vous êtes senti rejeté, en tout cas, oui.
Oui, parce que malheureusement, c'est vrai que c'est pas évident. Après, je le sais, on le sait qu'il faut pas s'attendre à ce qu'on vienne comme ça chez nous, taper à la porte et venir nous chercher, quoi. C'est vrai que, vous voyez, quand on a un handicap, c'est encore plus difficile. Il faut presque enfoncer des portes ouvertes, comme on dit, quoi.
Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est une maladie qui était prévisible? Est-ce qu'on vous a préparé à ça ou pas du tout?
Non, pas trop, non. Non,
c'était pas héréditaire, c'était pas quelque chose que vous avez
dit. C'est une maladie génétique héréditaire, c'est la maladie de Leber. Maladie de Leber, névrite optique. Alors, je savais que j'avais une cousine, la première à avoir eu ça, dans la famille. Ouais. Parce qu'on est quatre, là, actuellement, à avoir ça. Enfin, trois, dont le premier, un cousin un petit peu éloigné. Mais après, c'est vrai qu'elle ne m'avait pas trop dit. On n'avait pas beaucoup de rapports, on ne se voyait pas trop souvent, quoi. On n'était pas très loin non plus, mais bon.
Et quand vous dites ça, c'est-à-dire les premiers symptômes, ça a été quoi?
En fait, les premiers symptômes, ça a été en 15 jours. Vous voyez, je commençais à y voir un petit peu moins bien de loin. Et puis après, par la suite, les jours passants, de près aussi.
Aussi rapidement que ça.
Ouais. Oui, en l'espace de 15 jours. Ouais, en fait,
et avant, tout était normal.
Et avant, tout était normal, j'ai toujours eu 10 dixièmes.
D'accord. Ouais.
Ouais. En fait, ça commence, on a une vision en périphérie, quoi, sur les côtés. Quoi. On a au centre de la vision, scotome, qui s'appelle une tache, quoi, au centre de la vision, et de couleur claire. Quoi. Et donc, au début, j'avais 4 et 3 dixièmes, 4 à l'œil droit et 3 à l'œil gauche. Ça commence par un œdème, et puis après, au bout de 6 mois, quand l'œdème disparaît, on a ce qu'ils appellent un scotome, quoi. Voilà, de couleur, cette tache là, qu'on a au centre de la vision, qu'on est les yeux ouverts ou fermés. C'est vrai qu'au début, voilà, il faut bien à peu près 2-3 ans vraiment pour bien s'adapter à cette vision-là quoi, et à la maladie. Quoi.
Est-ce que ça peut encore dégénérer ou à un moment donné ça stagne et ça reste comme ça?
Non, normalement, je croise les doigts, mais là je suis en vision un 20e, quoi, vous voyez. Et après, une fois qu'au bout de 6 mois, il y a eu cette. La disparition de l'œdème, etc., et que ce scotome s'est mis en place, quoi. C'est mis en place, c'est vrai que là, par contre, c'est vrai qu'il y a une chute brutale, quoi. Et là, c'est vrai que... Bon, et par contre, là, ils ont trouvé, à l'époque, il n'y avait rien, comme c'était une maladie orpheline, et qu'il est toujours plus ou moins, quand même. Là, ils ont trouvé quelque chose au 15-20 à Paris. D'ailleurs, on est monté en février, là, avec mon cousin, et ma compagne, et ma femme, et un ami à moi. Voilà. Mais bon, ils arrivent à faire un traitement, maintenant, en place. Ils ont mis un traitement en place, mais... C'est-à-dire que les personnes qui ont déclaré la maladie depuis plus de 4 ans à peu près, les résultats sont assez probants, mais après, pour l'instant en France, malheureusement, avec l'ARS, etc., ils ne veulent pas aller plus loin. Mmh. C'est-à-dire les personnes comme moi qui ont la maladie depuis plus de 20 ans, ils ne veulent pas trop prendre le risque d'essayer.
Ouais.
Ouais. Apparemment, ils pensent que... Ouais.
Que ça ne marchera pas.
Ils pensent que voilà, les résultats ne seront pas super top, alors que bon, ceux qui ont, comme c'était passé au Téléthon là, en décembre dernier, avec, vous savez, l'émission hein, sur France 2, avec Nagui, etc. C'est vrai qu'il y avait le témoignage d'un jeune homme qui était passé sur Europe 1, d'ailleurs, et Julien. Il avait récupéré jusqu'à à peu près 3 ou 4 dixièmes, quoi.
Ah, c'est très encourageant, ça, effectivement. Ouais.
Ah, franchement, c'est super. Ben, c'est super, c'est énorme. Quand on sait qu'on a un 20e de vision, vous voyez, inférieur à un dixième, arriver à avoir 3 dixièmes, bon. Comme on disait à mon cousin, si on aurait pu avoir ne serait-ce que même un dixième, on aurait été content.
C'est bon à prendre, bien sûr. Comment est-ce que vous avez appréhendé et apprivoisé tout ça, cette évolution de votre vue?
Et appréhendé, c'est-à-dire que, enfin, difficilement, comme je vous disais, les premiers
18 ans, vous aviez, hein, c'est ça?
Oui.
Tout jeune homme.
Ouais, tout à fait, complètement. Ouais, c'est vrai que ça vous met un stop, quoi, un arrêt, comme on dit. On est en plein, vraiment, au niveau de la fin de l'adolescence, quoi. C'est vrai que ça n'a pas été évident, mais j'ai quand même été assez bien, même très bien entouré, tout ça. Donc, ça a été aussi... il y a eu quelques petits accros, des petits dérapages, mais bon, il a fallu aussi accepter la maladie, c'est pour ça, quoi. Ça n'a pas été facile aussi. Ma maman aussi a mis du temps à accepter, comme c'est une maladie donc génétique, héréditaire, et qui est transmise uniquement par la femme, donc par la maman. Hein. Donc,
elle s'en est voulu.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'était un petit peu conflictuel pendant quelques temps, pendant quelques mois. Alors que je ne lui en ai jamais voulu, au contraire même. Parce qu'elle n'était pas responsable, malheureusement.
Bien sûr.
Malheureusement, elle n'y pouvait rien, comme je l'avais. Je lui disais toujours... Hein. Sur 3 frères, on était 3 frères, moi je suis le dernier, il n'y a eu que moi sur les 3. Par contre, mon cousin et sa sœur, les 2 frères et sœurs, ont été les 2 touchés à terme, quoi.
Est-ce que ça a changé, par exemple, des projets que vous aviez pour plus tard, à 18 ans?
Oui, quand même. Enfin, ouais, quand même, ouais. Enfin, au départ, je voulais être... Enfin, j'étais dans un CFA, à l'hôtellerie, pour être cuisinier, quoi. Donc c'est vrai que... Enfin, au départ, ouais, je voulais faire ça, hein. Après, j'avais aussi un petit peu arrêté au niveau des horaires. J'étais passé dans notre centre de formation d'apprentis du bâtiment. C'était plus vraiment rien à voir. Hein. Voilà, dans la peinture en bâtiment. Donc, j'ai dû tout arrêter, évidemment, parce que ça arrivait en deuxième année, donc en décembre, donc forcément.
Et du coup, vous avez fait quoi?
Du coup, voilà. Donc, soit je continuais mes études, enfin, soit je retournais vraiment, vous voyez, dans un centre spécialisé pour personnes malvoyantes et non-voyantes, quoi, qui était à côté de chez nous, Bordeaux, en Barès, pour reprendre des études. Et comme je leur avais dit que je voulais faire de la musique, bon, ils me proposaient plus le piano, moi je voulais faire de la batterie, des percussions. Donc, bon. Ben, je me suis plus, c'est vrai, c'était pas évident, quoi, voilà, avec les services sociaux, etc. Bon, ils ne me proposaient pas grand-chose non plus à l'époque, quoi. Mon cousin, lui, comme je vous disais tout à l'heure, qui a la même chose que moi aux yeux, hein. Lui, il s'est dirigé plus vers une école de kinésithérapeute. C'est... D'ailleurs, il est kiné-ostéo sur Bidart, là, à côté de Biarritz, en 64. Il s'est mis à son compte avec deux autres associés. Et moi, je me suis retourné, comme je vous disais tout à l'heure, vers la musique à fond, quoi. Enfin, à fond, oui. J'ai bossé 6 heures par jour, à peu près, de batterie. Je m'étais mis à fond dedans, quoi. Ouais, j'étais bien entouré aussi à ce niveau-là, quand même.
Et donc là, aujourd'hui, vous gagnez encore votre vie grâce à la musique ?
On va dire un petit peu moins. Voilà, depuis, si vous voulez, mais depuis 2012-2013, à peu près. Ouais, 2013, j'ai ma maman... alors moi, j'ai eu pas mal de galères parce que c'était bien ma maman qui a eu... ma maman souffrait d'un... qui est décédée depuis 2016, maintenant, malheureusement. Mais enfin, c'est comme ça, mais malheureusement, ouais. Elle a eu, si vous voulez, mieux, une maladie liée au Parkinson, c'est à Cordes de Lévis. Parkinson, vous allez connaître, ouais. Donc, il a fallu beaucoup être là, présent, l'entourer. Elle était toute seule déjà, veuve aussi. Mon papa était décédé depuis 2007. Donc, bon, là, ça a été assez costaud. Voilà, donc, il a fallu s'occuper beaucoup d'elle, l'entourer. Elle a été placée après en EHPAD, etc. Donc, en unité fermée et tout. Donc, et puis, alors, moi, j'ai eu pas mal de galères suite à tout ça, vous voyez. Tendinite, au niveau de la hanche, bursite, sciatique, hernie discale. Donc, j'avais un petit peu mis tout ça de côté. Voilà, donc, et là, je m'y suis remis depuis à peu près un an et demi, deux ans. Voilà, j'ai pu avoir une petite maison, un pavillon depuis trois ans, donc j'ai eu la chance d'avoir une petite pièce, une petite chambre, dans un bureau que j'ai aménagé, voilà, j'ai mis une petite batterie électronique, etc., pour pouvoir bosser un petit peu, quoi.
Puis j'ai entendu que vous avez une compagne, donc de ce côté-là, ça marche bien aussi, ça va ?
Oui, tout à fait, et j'ai une fille aussi, Manon,
bah voilà. Donc la vie est belle quand même ?
Ah oui, forcément, oui, non, tout à fait, de ce côté-là, j'ai vraiment... pas me plaindre, quoi. C'est vrai que, voilà, c'est super pour ça. Tout à fait, ouais. Après, mais il faut vivre avec, comme on dit. C'est comme ça, hein. C'est sûr, c'est pas facile. Mais bon, il y a des fois, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où je dois pas être facile à vivre non plus. Tous les jours avec mon handicap, quoi. Mais bon, il faut toujours avoir ces petits, voyez, ces petits repères, ces petites habitudes, quoi. Voilà, quoi.
Et votre femme, elle vit ça comment ?
Mais je pense, j'espère, elle doit m'écouter, hein. Bien, il me semble. Enfin, bien, oui, quand même, très bien, même. Enfin, très bien. Non, ça n'a pas été marrant non plus, parce que quand on s'est connus, j'avais pas ça aux yeux encore. Et
Ah oui, donc c'est un couple de longue haleine, alors. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble.
Ah oui, tout à fait, ouais. Ça fait 31 ans. Ouais.
Donc vous avez...
Jeune et vieux couple, à la fois.
Vous avez surmonté ça ensemble, quand même.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, complètement.
C'est important. Ouais. Hein.
Ça a été très, très important. Ouais. De ce côté-là, j'ai pas. Non, j'ai rien à redire. Et puis là aussi, je suis quand même très, très bien entouré. J'ai de superbes amis. Voilà, quoi. Des bons potes, comme on dit, des frangins. Il me reste aussi notre frère. Non. De ce côté-là, ça va, je suis quand même bien entouré. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, on est vraiment à fond là-dedans, dans le sport aussi, ici au Pays Basque. Et puis. Donc, de nous couper comme ça, c'est vrai que, bon, il y a la télé comme le Canal Plus, l'abonnement, mais c'est quand même pas donné non plus, donc pour ceux qui n'ont pas les moyens, voilà.
Bien sûr.
C'est quand même dommage, quoi, vous voyez.
Bah, écoutez, Jean-Pierre, le message est passé, j'espère que la vague atteindra un jour la bonne rive.
Oui, tout à fait, complètement, j'espère bien, on ne sait jamais. Après, comme c'est vrai que sur Europe 1, vous devez connaître du monde, oui, même Christophe Ondelade connaît. Donc, on est du monde, mais pas que, mais bon. Ou le service des sports, on ne sait jamais. Si on peut faire passer le message à tout le monde.
Je vous souhaite en tout cas que ce soit entendu et que ça change.
Merci en tout cas de votre émission, elle est superbe. Je l'écoute depuis plus d'un an et demi, deux ans aussi.
C'est gentil, merci Jean-Pierre. Je vous embrasse très fort.
Mais merci beaucoup, Parrain Sabine. Bonne soirée, à bientôt.
Bonne soirée, au revoir. Bonsoir David.
Bien, bonsoir.
Bienvenue. Sabine. Comment allez-vous ce soir, David ?
Bonsoir à toi, Europe 1 aussi. Toute personne nous écoute aussi, entendu.
Comment allez-vous ce soir ?
Oh, on essaie de faire, mais alors c'est pas facile. Ouh là là ! J'ai eu un drôle de zigoteux comme... Oui, comme un psychiatre. Hein.
C'est-à-dire ?
Déjà, je me suis demandé pourquoi ça que m'a envoyé un psychiatre là-bas, puisque il y a le lundi 16 décembre 2019, j'avais eu, en consultation, j'avais été à la demande du procureur, contacté à deux villes à côté de la mienne une personne qui est psychiatre, il est psychothérapeute et sexologue.
Oui.
Il m'a même demandé pourquoi que le procureur demandait ça. Et pendant le temps qu'il m'a demandé ça, il y a son téléphone qui a sonné. C'était son fils qui lui téléphonait à cause qu'il avait oublié son livre de mathématiques à l'école. Je ne sais pas, mais en consultation, automatiquement, il devrait...
C'est pas très correct.
Laisser le répondeur.
Mais je suis assez d'accord avec vous.
Alors du coup, il a... J'étais là en train de dire, en train de tenir la chandelle pendant le temps qu'il parlait avec son fils. Vous voyez ? Et après, il a fait un rapport n'importe comment au procureur, en train de me faire passer pour plus bas de ce que je suis.
Qu'est-ce qu'il a dit de vous ?
Ben, comme quoi que je suis pas... Un peu comme quelqu'un qui... Oula ! Attendez, j'ai une lettre devant moi, là, mais... Si j'ai vu ça, moi. Il y a tellement de prix, il m'a envoyé au moins 5 pages, là. C'est marqué là-dedans.
Non, mais résumez-moi, ne me lisez pas la lettre, c'est pas la peine. Simplement, quoi, il disait en quoi que vous aviez une déficience ou quelque chose comme ça ?
Oui, comme quoi que j'étais... Enfin, je peux pas gérer tout moi-même. La chose que je peux pas, moi, je le sais très bien, ce sujet-là, c'est quand je dois faire du courrier, je l'avais même dit à la juge, que quand il faut faire du courrier, c'est là que je donne quelqu'un. Mais autrement, pour gérer mon compte bancaire, je donne personne. Ça fait 37 ans que je le gère. J'ai 10 comptes bancaires, normalement. Vous voyez ?
Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On vous a mis sous tutelle, c'est ça ?
Oui.
Donc on vous a empêché de gérer vos comptes tout seul ?
Voilà.
D'accord.
Et puis, Marquito, entendu, toutefois qu'il convient, en application des dispositions de l'article 471 du Code civil, de laisser à la personne protégée le libre accès à un compte de dépôt, lequel sera alimenté par le soin du curateur. Oui, tellement alimenté que ça fait déjà 2 semaines que j'ai même pas la carte. Eh oui. Et ne pourra donner lieu à la délivrance ni de chéquier, ni de carte bancaire.
Ah, c'est ça, bah oui.
De paiement, à l'exception d'une carte de retrait exclusivement limitée à un seul disponible. Oui, normalement, je dois avoir une carte à 81 euros.
Oui, ils ont tout verrouillé, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes, sincèrement, par le passé, David ? Est-ce que vous avez fait des bêtises avec vos sous ?
Non, je m'en prêtais de l'argent, c'est tout.
Ah, ben voilà.
Oui, à 4 endroits différents, mon père et ma sœur, une personne qui habite à l'île où j'habite, sa fille avec un ingénieur, et en dernier, elle est pompée.
Et oui, donc je
il y a même le... Comment s'appelle le procureur. Il m'avait même envoyé un courrier. Il avait marqué dedans comme quoi que on n'a pas pu identifier la personne sans cette femme qui est pompier. Et ce qui est plus marrant, c'est que j'avais seulement mis dans la plainte le nom, le mariage et son prénom. Et lui, on n'a pas pu identifier la personne et il m'a mis son nom de jeune fille.
David, je comprends que ce soit très frustrant, mais en même temps, c'est quand même une barrière de sécurité pour vous, cette histoire de curatelle, de tutelle.
Ah oui, mais alors la curatelle, je ne sais pas, mais ils ont du mal à se mettre dans la tête que je paye avec quoi, moi.
Votre souci, c'est qu'ils ne vous donnent pas assez tous les mois ?
Ben, ils ne donnent rien du tout. La personne qui s'est mise au curatelle, là, qu'on m'a mis comme curateur, ben... J'avais même dit à mon voisin du dessus, j'ai dit, vous allez voir, ça fait plusieurs jours que j'ai pas de ces nouvelles, vous allez voir, le jour que le taxi va se pointer pour m'emmener chez le psychiatre, c'est là qu'on va m'appeler. Vous n'avez pas loupé ? Je l'ai appris, je ne la verrai plus. Elle ne s'est pas loupé non plus. Je l'ai encore vu.
Et vous ne pouvez pas téléphoner à un service social, à une responsable qui pourrait peut-être vous aider, faire bouger un peu tout ça ?
Oh, je vais me déplacer moi-même. C'est dans l'ancien hôpital qui est arrivé d'un côté. C'est un hôpital, maintenant c'est fermé. Hein. Ils ont tout... L'hôpital est ouvert plus loin. Ici, même que le département d'à côté, ils ont fait un hôpital encore plus grand.
Qu'est-ce que vous demandez précisément, David ?
Moi, ce que j'avais demandé à la juge, quand j'avais été la voir avec la greffière, j'avais demandé, moi, je veux récupérer tout cet argent que j'ai prêté, parce qu'ils n'arrêtent pas de me faire tourner en rond depuis des années. Moi, ça fait un peu de temps, là. Moi, de tout ce qu'ils me font perdre en même temps, car vu que c'est de l'argent de placé, ça m'en prend des intérêts, ils m'en font perdre une somme dingue. Moi, je veux tout récupérer, tout ça. Mais concernant pour mon compte bancaire, je le gère moi-même, c'est pas personne, celui-là. Et autrement, c'est quand j'ai besoin de faire du courrier, j'ai dit pour la MDPH, c'est pas mon faire, c'est un centre social qui me remplit. Elle est très sympa, même.
Ah bah justement, est-ce qu'elle peut vous aider, elle, si elle est sympa?
Ah ben, pour faire du courrier, elle...
Non, mais je parle pour cette histoire d'argent, surtout.
Non, il faut aller directement c'est une sécurité. De toute façon, il y a mon avocat qui vient de m'écrire. Hein. Ah oui. Il est revenu à l'attaque, lui. À cause qu'il n'y avait pas le... Comment ça s'appelle? Il y a un juge d'instruction, voilà, qui a été changé. Il y en a un nouveau maintenant. Et il s'était aperçu comme quoi que... Comment dire? Que mon dossier n'était pas encore passé.
Votre quoi? J'ai pas compris.
Ma plainte n'était pas encore passée.
Votre plainte n'était pas encore passée?
Oui. Il marquait, jusqu'alors, m'était indiqué que votre plainte avec constitution de partie civile n'avait toujours pas été traitée.
D'accord.
Alors, mais... du coup, maintenant, il va me rattaquer avec tout ça. Il va me prendre, il va me contacter pour prendre, comment dire, un rendez-vous. Et puis, pour que
ça bouge.
Tout ça ensemble.
Bon.
Voilà.
Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul. Il y a un avocat qui s'occupe de vous. Et c'est dans les tuyaux, on va dire. Même si les tuyaux semblent un peu longs.
Voilà. Et puis, il y a même marqué que le juge, le nouveau juge, c'est maintenant, là, d'instruction, a donc considéré qu'il y avait assez suffisamment d'éléments dans votre dossier pour diligenter du moins, une nouvelle enquête.
Bon, bah c'est une bonne nouvelle, ça.
Mmh.
Ça veut dire que ça va bouger.
Voilà, je me montre à mon voisin, il m'a dit, ben, voilà, ils sont réveillés, c'est peut-être temps. Hein. Ouais. Et puis, pour le taxi, alors le taxi, c'est à moi. C'est moi qui paye, hein, autant vous le dire. Hein. Il y en a pour 144,47 €. Et puis, attendez, si c'est un bon parcours que le taxi, il y en a pour une totalité de 125 km aller-retour, entendu. Hein.
Bon, j'espère qu'ils vont faire bouger les choses. Mais dites-moi, David, parlez-moi un peu de vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie, à vous? Quel a été votre parcours?
Oh là là. Alors déjà, si on commence par le début, quand ma mère même est en train de me mettre au monde, hein. Là aussi, j'ai failli perdre la vie.
Pourquoi?
Vous savez, ça tombe bien que vous êtes féminin. Quand une femme met un bébé au monde, il y a la tête qui passe premier. Et les épaules après. Sauf que moi, mes épaules ne passaient pas. Mmh. Ma mère a fait avoir une césarienne à quelques secondes près. Pourtant, j'étais le 10e bébé que ma mère mettait au monde. Hors de mariage. Oui.
Vous étiez le 10e de la fratrie, alors?
Voilà. Bon. Elle disait, il n'y a que moi qui ai eu tout le malheur sous le dos.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Le plus gentil de la famille, le plus calme. Bah alors, faut voir ça le mieux. Oh là là. Si sincèrement, il y aurait un écrivain qui écrivrait ma vie, il ne faudrait surtout pas lire les livres, parce que là, vous prenez littéralement quelque chose, vous vous suicidez tout de suite. Il y en a plein qui m'ont déjà dit. Hein.
Qu'est-ce qui vous est arrivé après?
Oh bah, une semaine après ma naissance, bah, j'ai encore failli perdre la vie. Je ne sais plus ce que j'avais eu là, mais il fallait passer à ma gauche aussi. Ensuite, il y a eu un document qui a été fait comme quoi qu'il ne fallait pas me vacciner contre la polio. Je ne supporte pas ce vaccin-là. Donc, il ne fallait surtout pas me faire.
Le vaccin contre la polio, c'est ça?
Ah oui. Il y en a eu des morts avec ça. Et puis, c'est arrivé en 1976, j'ai fait la liste complète comment j'allais faire ma vie. J'avais 11 ans. Le jour même de mon anniversaire. Je suis né le 19 mai. Oui. Ce qui m'attendait après aussi. J'étais deuxième en classe. La directrice m'a fait redoubler le CM2. En étant deuxième.
Mmh.
Elle me dit, c'est fait redoubler, c'est pour ton bien. Ça, je risque pas de l'oublier. À quel bien? 1977, l'année d'après. Dernière semaine du mois d'avril. Vaccin de polio. Du coup, j'ai pas été à l'école le matin, j'ai été dans l'après-midi. Première chose qu'elle m'a dit quand je suis revenu l'après-midi, que si je suis pas venu à l'école par peur à cause du vaccin, ça aura servi à rien. Il y a une autre classe qui va cet après-midi, tu vas avec eux. C'est là que j'ai dit, j'ai pas eu peur de vaccin, hein. Je peux pas être vacciné de vaccin de polio. En parlant au docteur, on m'a pas écouté. Et quand j'en ai parlé au docteur, il m'a pas cru. J'habitais juste derrière la mairie. Il a empoigné mon bras et m'a vacciné de force. Comme d'un coup de plume. Mais tu vois, t'as rien. Et quoi, c'est quoi les croix d'Acobra? Je sais pas, mais... Hein.
Et il a eu des conséquences, ce vaccin, sur vous?
On m'a vacciné la dernière semaine du mois d'avril. Première semaine du mois de mai, je suis tombé entre 6 à 7 heures dans le coma. J'ai failli passer l'arme à gauche. Le docteur de l'hôpital, il a dit à ma mère, hein. Votre fils a une crise épileptique. Heureusement qu'il était costaud, ouais. Il a eu pire qu'un arrêt cardiaque. Il a failli y passer. Il revient de loin. Mais tu vois la place de ma mère. Vous envoyez votre fils à l'école. Que ce soit un fils ou une fille, de toute façon. Vous avez votre enfant à l'école. Et quoi? Vous apprenez après qu'il est où, quelques jours après, en hosto? Qu'il a failli passer à la main gauche? Moi, je peux vous dire que moi... Ne vaut surtout pas que j'ai un enfant, hein, parce que alors là, je peux vous dire que s'il y en a un qui ne fait pas de traviole, il y a terrible ça, là, surtout avec moi. Même à l'heure actuelle.
Mais aujourd'hui, David, vous souffrez de quoi?
Je suis épileptique.
Il n'y a que l'épilepsie comme problème de santé?
Ah ben, moi, un docteur, il peut se mettre au chômage. Hein. J'ai été opéré de l'appendice. À cause d'une crise épileptique, j'ai percuté un muret de béton, un coup de tête dans le mur, clavicule pété en deux, deux côtes ferrées. En plus, j'ai fait une tue en 2008. Allez. En 2003, à cause du sable qu'il y avait sous le macadam, mon vélo s'est pas arrêté. J'ai percuté le pare-choc d'une voiture, j'ai volé en pare-brise arrière. J'ai fait une casser le cou. En 2017, là, c'est devant un supermarché, je ne roulais pas aussi, j'ai cassé sous le vélo. J'ai piqué une crise. J'ai basculé sur la droite. J'ai fait une casser le cou. Là, le douleur était à gauche, maintenant il est passé à droite. C'est encore mal. Pourtant, ça monte à 2017. Mmh. Et du coup, avec tout ça, combien de fois on dit qu'un chat a 9 vies, j'ai passé de mes doigts. Combien de fois j'ai fait le perdre la vie.
Oui, c'est ça, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes un warrior, hein, finalement. Un survivant.
Mmh. On peut le dire. Mmh. Vous savez, il y a une mamie de 82 ans qui habite dans le bâtiment en face du mien. Là, on était quand il faisait encore chaud. T'as essayé de voir avec une de ses voisines, qui est sa copine. Cette dame qui a 82 ans, elle a le cancer. Elle marche avec un... Je n'arrive jamais à dire le nom, un manipulateur.
Déambulateur.
Déambulateur. Et puis, elle m'a dit, du côté de la vie et de la mort, on ne veut pas de vous. Oui. Elle a dit la phrase que je disais, pourtant je ne l'ai jamais dit. Hein. Mais moi-même, je l'ai dit. C'est pour ça que je me suis toujours rappelé le mort-vivant. Bah oui. Je suis vivant, je sais, mais je suis considéré comme un mort. Vous savez que quand j'ai une crise épileptique, quand je tombe, vous pouvez prendre quelque chose, un gros maillet et me taper sur les doigts, je ne sentirai rien du tout. Mmh. J'ai failli me casser le cou à cause de la juge. Pas la première que j'ai vue avec la greffière, hein. Non, non. Le 20. J'ai été voir la juge, le 20 qu'on est passé, là. Hein. Pas le 20 de ce mois-ci, hein, le mois d'avant. J'ai été voir la juge, tout, elle ne m'a pas écouté. J'étais en train de parler à Camure. Je le sens, j'ai plus de dommage sur là. Et quand j'étais chez moi, quelques heures après, la crise s'est déclenchée. Oui. En plein sous le bord de l'évier, j'ai failli me démonter la mâchoire, je le sens encore. Hein. J'ai ma mâchoire du côté gauche, droit du moins. Et puis j'ai failli me casser le cou. Il y a un tabouret avec un cercle qu'on met les pieds dessus, autour, tout métallique. J'ai failli me casser le cou avec. Oui. C'est pour vous dire. Je n'ai pas été à l'hôpital pour autant. Ils m'ont pas vu le docteur.
Ça peut être violent, ces crises-là, oui, c'est sûr.
Ça a dû passer. Hein. Ça a tapé sur l'arrière de mon épaule gauche, mon col du fémur côté gauche,
David,
et puis la mâchoire.
David, on va devoir se quitter, parce qu'il y a les informations qui arrivent. J'espère vraiment que votre avocat va réussir à faire bouger les choses pour vous et que vous allez trouver un peu plus de confort dans la gestion de cet argent. Hein.
Et puis c'est aussi le cas qui est vu là-bas, comment ça s'appelle, à Mulhouse. Lui, faut voir ça, hein. Il m'a à peine écouté. Et puis avec tout ça, ben, il était au moins à 3 mètres devant moi.
J'espère que vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous écouter davantage. Moi, il faut que je m'arrête là maintenant, David. Il y a les infos qui arrivent. D'accord ?
Laissez votre message à Sabine Marin au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Vous écoutez Europe 1, il est minuit, c'est l'heure des infos avec Sophie Tussaud.
La justice a bien fait son travail, a compris notre douleur et on est content d'arriver au bout.
La cour d'assises de Haute-Saône a rendu son verdict en fin de journée. Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia. Des manifestations contre le projet de loi sécurité globale un peu partout en France. Et puis deux nouveaux titres européens en judo pour les Bleus.
Europe 1.
Bonsoir à tous. Jonathan Daval reconnu coupable du meurtre de sa femme Alexia. La cour d'assises de Haute-Saône le condamne à 25 ans de réclusion criminelle. Un verdict à la hauteur des attentes de la famille d'Alexia qui espère à présent pouvoir laisser 3 années d'horreur derrière elle.
C'est à la hauteur de notre souffrance et ça va nous permettre de
tourner
une page. Et maintenant on va essayer de se reconstruire. De tourner la page et de passer à autre chose.
C'était 3 ans de calvaire.
Voilà.
On va faire simple.
3 ans de combat qui ont été très durs. Et on est content d'arriver au bout. La justice a bien fait son travail, a compris notre douleur et a compris le massacre d'Alexia en même temps.
Tout ça, c'était pour elle.
Tout ce qu'on a fait.
Pour elle.
C'était juste pour elle. Si elle nous regarde là-haut, c'est juste pour elle ce combat.
Les parents d'Alexia Fouillot au micro Europe 1 d'Arthur Nbaché. Jonathan Daval a fait savoir qu'il ne ferait pas appel du verdict. Un verdict en deçà des réquisitions de l'avocat général. Une décision équitable pour l'avocate Isabelle Steyer, spécialisée dans les violences conjugales.
Je pense que l'avocat général a voulu exprimer l'idée selon laquelle ce sont des meurtres qui sont commis avec circonstances aggravantes parce que l'agresseur connaît tout de la victime. Ses habitudes, sa famille évidemment, et vu ce que M. Daval en a fait. Et donc c'est un crime qui va au-delà du meurtre, qui détruit aussi toute l'intimité, toute la famille. Et je pense qu'il a voulu mettre cela en avant par ses réquisitions. Mais par ailleurs, ce n'est pas un dossier qui, à mon avis, pouvait amener une condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, puisque effectivement nous ne sommes pas dans un cas d'assassin en série comme l'était effectivement Fourniret, Guy Georges. Donc la mesure a été trouvée.
Maître Isabelle Steyer avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Également dans l'actualité, les opposants à la loi sécurité globale étaient à nouveau dans la rue aujourd'hui. Ils ont manifesté dans une vingtaine de villes en France contre un texte jugé attentatoire à la liberté d'expression. À Paris, quelques incidents ont éclaté à la fin du rassemblement auquel ont participé plusieurs milliers de personnes au Trocadéro. Une mobilisation après que l'Assemblée nationale a voté hier soir l'article 24, la mesure la plus controversée qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. La décrue se poursuit dans les services de réanimation en France pour le 5e jour consécutif. Toutefois, près de 300 personnes sont décédées ces dernières 24 heures du coronavirus dans le pays. Et les commerces fermés depuis le début du reconfinement devraient rouvrir autour du 1er décembre. Confirmation de Jean Castex lors d'un déplacement à Dijon ce matin pour échanger avec les acteurs économiques et les représentants des commerçants. En revanche, les bars et restaurants resteront fermés. Emmanuel Macron s'exprimera mardi pour annoncer une adaptation à des règles du confinement. Chez nos voisins, le Portugal prend de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de coronavirus. Le pays décide de fermer ses écoles pendant la première semaine de décembre. L'Italie, de son côté, annonce qu'elle entamera fin janvier une campagne de vaccination sans précédent. Elle commencera par les catégories de la population les plus exposées au Covid-19. Et puis, outre-Atlantique, la barre des 12 millions de cas a été franchie. Une première demande d'autorisation d'un vaccin contre le coronavirus a été déposée. La décision pourrait intervenir dans la première quinzaine de décembre. Les sports avec 2 titres européens pour la France en judo, pour Romane Dicot en plus 78 kilos et pour Madeleine Malonga dans la catégorie des moins de 78 kilos. Une très belle récompense s'est réjouie la judoka.
On a passé 9 mois difficiles. On a tous subi le confinement et le report des Jeux et forcément beaucoup d'envie et aussi un peu de stress, de savoir comment je vais retrouver mes sensations. Et au final, je suis montée en puissance toute la journée, donc ça m'a fait du bien. Et en plus, finir sur un deuxième titre européen, je suis super contente.
Madeleine Malonga répondait à Axel May pour Europe 1. Et puis en football, un seul match aujourd'hui en raison de nombreux cas de Covid. Saint-Etienne poursuit sa descente aux enfers. 7e défaite consécutive pour les Verts qui se sont inclinés 4-1 face à Brest. On jette à présent un coup d'œil sur le temps.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Bay, produit de fabrication française. Arcade et Bay vous présente la météo.
Valérie Darmon, demain on prend les mêmes et on recommence.
Et oui, et on retrouve la même perturbation qu'aujourd'hui, ondulant sur les régions au nord de la Loire, sans pluie, excepté un tout petit peu le long de la Manche et sur les Hauts-de-France. Au sud, le soleil continuera à briller après dissipation des grisailles du matin. Petite température tout juste sous les moyennes, avec l'après-midi 8 degrés annoncés à Dijon et Besançon, 9 à Vesoul, 10 à Auxerre, 11 à Lille, 12 à Paris, 13 à Rodez, 14 à Périgueux, 15 degrés à Mont-de-Marsan et enfin 16 degrés à Biarritz et à Nice.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 6 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Sur votre Libre Antenne, sur Europe 1, nous sommes ensemble pour cette deuxième et dernière partie jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à continuer à nous appeler, vous pouvez composer le 3921 à tout moment si vous avez envie de prendre la parole. Il y a de la place ce soir, profitez-en. 3921 donc pour nous joindre. Pour réagir, intervenir par SMS, donner votre avis, apporter un mot gentil, quelquefois ça fait du bien. Ou demander pourquoi pas être mis en relation avec quelqu'un qui vous touche, et bien vous faites le 73921 et vous commencez toujours par le mot nuit. Enfin, notre adresse mail, vous la connaissez bien maintenant, c'est libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et c'est Nadine qui nous a appelé au 3921. Bonsoir Nadine.
Oui, bonsoir Sabine, merci de prendre mon appel. Donc, j'avais envie de vous appeler parce que je me sens un petit peu triste avec ce deuxième confinement. Mmh. Et c'est bête parce que j'ai 65 ans et tous mes souvenirs de jeunesse reviennent. Mais enfin, j'ai entendu en écoutant vos émissions que ça arrive énormément en ce moment. Quoi.
Oui, beaucoup, effectivement. Et vous me le confirmerez sans doute, mais ce deuxième confinement n'est pas du tout vécu comme le premier.
Non, il est plus difficile pour moi. Mmh. Parce que le premier, je me disais ça va être 3 mois, puis ça va partir comme c'est venu, en fin de compte.
Tout à fait, oui. Il y a une sorte de découragement là qui nous touche tous.
Oui, tout à fait. Mmh. Alors, comme je vis seule, d'habitude j'allais faire des activités, mais là, tout est fermé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pense sans arrêt. Donc, je pense à votre petit hamster, là. Donc, j'ai commandé le livre. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore reçu.
Serge Marquis, on est foutu, oui. On pense trop.
Voilà,
c'est ça.
Voilà.
Et je vois donc, vous êtes fidèle.
Et donc, oui, je vous écoute toujours, j'adore. Et donc, je voulais vous dire, moi, je suis née, je suis arrivée la quatrième dans une famille où les parents ne voulaient plus d'enfants, quoi. Ils en voulaient deux, mais c'est tout.
Ah.
Donc, il y a eu ma sœur en troisième position qui est arrivée. Donc, ma mère, ça, c'est un drame, quoi, parce que, elle disait qu'elle avait peur pour sa santé. Enfin, c'est ce que j'ai appris après. Donc, imaginez-vous quand elle a été enceinte du quatrième, quoi.
Oui, vous êtes vraiment venue embêter le monde, si je comprends bien.
Tout à fait. Donc, comme je la connais, t'es angoissée. Enfin, elle a fait que ça toute sa vie. Donc, j'ai dû vraiment arriver, vraiment, pas être bien accueillie dans ce corps de...
Dans un contexte pas sympa, quoi. Oui.
Non. Et voilà. Et après, écoutez, je l'ai senti toute ma vie parce que je me suis jamais sentie bien dans cette famille, jamais bien à ma place.
On vous l'a pas donné cette place, je crois, tout simplement.
Ouais. Et de ce fait-là, vous voyez, quand il y avait le soir le repas de famille, tous les soirs, mon frère inventait une histoire sur moi, contre moi, pour se moquer de moi. Et tous les autres riaient. Et c'était sans arrêt, on recommençait l'histoire. Et si mon frère oubliait de le faire un soir, je voyais que ma mère le regardait, elle lui faisait un clin d'œil en me regardant. en douce, d'un air de dire, allez, embête-la d'une histoire, quoi. Ouais. Et se rendait pas compte comment ça pouvait me blesser, quoi.
C'est un sacré travail de sape, ça.
Ah ouais. Et c'était tout le temps, surtout, sur moi. J'aimais Yul Brunner, on me disait qu'il y avait les oreilles d'éléphant, j'aimais...
Vous regardiez, comment ça s'appelait, oui. le Anna et moi ? Ou Anna et le... Comment ça s'appelait avec Yul Brunner, cette série ?
Oui. Et donc, c'est vrai qu'on me critiquait, comme je l'aimais beaucoup, on me disait qu'il était impuissant. Enfin, vous voyez, toutes les bêtises, ouais. Mais enfin, toujours pour contrarier cette petite fille que j'étais, quoi.
Est-ce que vous leur avez dit un jour à quel point ça vous a fait du mal, tout ça ?
Bah oui, j'ai été le dire, parce que j'avais été voir une psychologue, donc j'ai été leur dire il y a un an, mais bon, vous savez, ils ont 93 ans, 94 ans, ma mère, bah non, au contraire, on riait, c'était marrant. Alors j'ai dit, toi tu riais, maman, mais moi j'avais beaucoup de mal.
À mes dépens, tu riais, ben oui.
Ouais. Et après, c'était pareil, quand elle allait chez le coiffeur, ma grande sœur, elle laissait pousser ses cheveux, lui faisait des belles anglaises. Et moi, on allait chez le coiffeur et puis on me disait, oh non, ce sont pas beaux tes cheveux. J'avais entendu la dame qui vous en avait parlé hier aussi. Mmh. Et c'était le même coiffeur, monsieur et dame. Elle se mettait du côté des dames, bien sûr. Puis elle me mettait au coiffeur garçon, déjà, ce qui me vexait. Parce que j'étais une petite jeune fille, quoi. Et puis elle disait, bien court. Hein. Donc je sortais de là, franchement, j'avais plus un poil sur le caillou. Et j'avais déjà pas des cheveux épais, donc.
Et l'estime de vous-même a dû réduire au même moment, j'imagine.
Pardon ?
L'estime de vous-même a dû réduire au même temps que les cheveux ?
Oui, tout à fait. Puis en plus de ce fait-là, j'ai attrapé ce qui est rare, à ce moment-là, parce que je suis née en 56, j'ai eu une anorexie infantile de 6 ans à 9 ans. Et dans ce temps-là, on n'a parlé pas de ça, d'anorexie, hein, mais c'est vrai que j'allais à table, je n'avais plus faim, et je savais que j'allais avoir, au lieu de me donner des choses que j'aime, non, on m'en mettait, puis on criait, tu vas manger, et ça criait, donc...
Comment vous êtes sortie de ça, de cette anorexie ?
C'est à l'école, à la visite médicale de l'école, un jour ils m'ont mis à part, ils m'ont dit, cette enfant, ça va pas, ça fait 3 ans qu'elle grandit plus, qu'elle grossit plus. Donc, j'ai dû faire un examen à la sécurité sociale avec un médecin et ils m'ont envoyé 3 mois dans un aérium pour les enfants qui avaient des problèmes de santé. Et du coup, heureusement, ça a développé quand même. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien quand je suis revenue.
Loin de maman, ça allait mieux ?
Oui. J'étais partie loin d'eux, je ne les ai pas vus pendant des mois. Hein, donc, Mais c'est vrai que quand je suis rentrée, ça me faisait... C'était triste, hein, mais bon... Après, ça a été, mais... Enfin, j'ai toujours été mal dans ma tête, hein, mal dans ma peau, et je m'en suis... J'ai compris pourquoi seulement quand j'ai fait mon travail en étant en retraite, vous voyez, c'est bête, hein. Il a fallu attendre 60 ans.
Vous savez, je le dis souvent, ça vient quand ça doit venir.
Oui.
J'entends, à longueur de journée, j'entends des gens qui me disent « si j'avais su plus tôt, j'ai perdu du temps ». Non, je crois qu'on fait ce travail quand on est prêt à le faire.
Ouais,
et quelquefois, il faut de maturité pour être prêt à le faire. C'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'après, c'est facile de se retourner et dire « j'aurais dû le faire plus tôt ». Mais si on avait été capable de le faire plus tôt, on l'aurait fait.
Oui, c'est vrai.
C'est la vie qui nous amène un jour sur ce chemin.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est vrai que je l'ai fait. J'ai fait le MDR, ça allait beaucoup mieux. Mais là, avec le premier confinement, j'ai encore très bien. Mais là, ça revient en boucle que je pense sans arrêt que je me culpabilise. Parce que comme là, il y a eu le confinement... Souvent, c'est moi qui fais les courses pour ma mère. Vous voyez tout, c'est moi qui fais ses courses et papiers malgré tout, alors que les deux premiers qui sont magnifiques, mais bon.
Ça aussi, c'est un grand classique, parce que c'est comme si vous cherchiez encore leur amour, d'une certaine manière.
Oui. Et là, comme j'en avais marre, j'ai dit, de toute façon, c'est le confinement, j'ai pas de voiture, moi je dois venir à pied, ça fait plus loin que l'un kilomètre. Donc j'ai dit, écoute, tu demanderas la plus grande, et voilà, quoi. Et donc, je vois quand elle appelle, ton pain, il nous a manqué. Donc, c'était même pas moi, c'était mon pain qui a manqué. Mais enfin, bref.
Ah, c'est sympa, ça.
C'est sympa, hein. Et puis après, oui, mais pour les papiers que tu faisais, j'ai pas pu. Je dis, écoute, tu peux demander à j'ai l'autre prénom, quoi. Je dis, puisque tu dis toujours qu'elle écrit si bien que, mais en fin de compte, je vois qu'elle a besoin de moi que pour ses papiers, puis pour ses courses, mais pas pour les sentiments du tout.
Alors moi, ce qui m'intéresse dans une situation comme ça, c'est comment vous le vivez. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vivez d'avoir osé lui dire « non, c'est bon, je ne fais plus
» j'ai osé de le dire parce que c'était le confinement. Mais après, elle va revenir à la charge. Donc là, je voulais vous avoir parce que là, je vais dire « écoute, je suis fatiguée, je vis tout seul, je m'occupe de tout moi-même ». Et donc, j'ai plus envie, quoi. Je vais dire, tu sais, je vous respecte, je vous aime bien, mais là, je ne me sens plus capable de faire tes papiers, de faire tes courses.
Est-ce que ça sonne juste pour vous, ça ? Est-ce que vous êtes OK avec cette réaction-là ? Ou ça tangue un peu quand vous dites ça ?
Ben, ça tangue un peu. Je dis ça, peut-être je vous aime bien, parce qu'une fois, parce qu'elle voit que je suis un peu plus froide, et elle me dit maintenant, des fois, elle appelle, du coup, elle fait « Ah, tu sais, on t'aime bien, hein ?» Et puis, je dis que c'est pas vrai, quoi. Alors, je fais pareil, quoi. Enfin, c'est pour ça, mais c'est vrai que ça tangue un peu, quoi. C'est pas...
Mais la décision de vous occuper de vous en priorité, est-ce que c'est quelque chose qui s'installe, que vous sentez, qui commence vraiment à être important pour vous ?
Oui, avant le confinement, c'est vrai que ça a commencé. Ça faisait presque plusieurs mois, un an que j'étais partie. J'étais contente, je ressortais, c'était bien. Je sortais dans les groupes de seniors, j'allais au repas d'amis, tout ça. Enfin, c'était bien, alors que je faisais pas ça. Et là, j'y avais pris le plaisir, vraiment, tout en faisant ses courses quand même pendant la semaine et ses papiers. Mais du coup, même si elle me disait quelque chose, mais ça me faisait rien. Mais là, c'est vrai que j'y pense fort. Comme vous voyez, une fois, je lui avais téléphoné, mais il y avait son fils qui était chez elle. Et mon fils, si je fais pas les courses, c'est pas bien pour ma mère. Et si je les fais, c'est pas bien non plus. Je sais pas de quoi il y a peur, toujours. De toute façon, c'est quand même le chouchou. Mais du coup, une fois, j'avais téléphoné, il était là. Alors, pour pas faire voir que c'est moi qui avais appelé ma mère, elle a décroché. Et puis, elle m'a dit, ah ben non, madame, j'ai rien envie. Non, non, au revoir. Et puis, elle m'a raccroché au nez comme ça.
Ah oui, quand même.
Oui, ça fait mal, hein.
Oui.
Puis après, elle m'a dit, bah oui, mais tu sais, comme ça, il sait pas que t'appelles. Mais non, on fait pas ça, quoi. Je dis, bah tu dis, écoute, il y a quelqu'un, tu me rappelles. Je dis, je rappelle. Et puis voilà. Enfin, c'est bête, quoi. Mais c'est des choses qui marquent. Et c'est vrai que de ce fait-là, que les autres frères et sœurs, je suis pas non plus liée du tout, quoi.
Bah forcément, la sauce ne peut pas prendre quand des parents se comportent comme ça dès le départ. Il y a une différence. Forcément, ça crée des blessures qui font mal, et c'est difficile d'avoir un lien sincère et plein d'amour avec des frères et sœurs qui ne sont pas traités de la même manière. Quoi.
Non, parce qu'en plus, il y a eu les étiquettes. Hein, donc, il y a bien les étiquettes. La première, l'intelligente. Le deuxième, le merveilleux. La troisième, malheureusement, elle a une très mauvaise étiquette, elle. Et puis après, moi c'était encore différent. Moi, j'étais comme si je n'existais pas, en fin de compte. J'avais l'impression de, si pour les critiques et tout ça, mais sans ça qu'il n'y a personne qui s'intéressait à moi. Quoi. J'étais seule. J'ai vécu une jeunesse seule, sans me confier à personne, à rien. Je n'ai jamais rien confié à mes parents. Enfin, jamais rien.
Mais forcément,
oui. Ouais.
Mais j'ai entendu que vous aviez des enfants.
Oui, j'ai deux enfants.
Alors justement, comment ça s'est passé quand vous êtes devenue maman et que vous avez compris à quel point on peut aimer son enfant ? Parce que j'imagine c'est ce que vous avez ressenti.
Oui. Là, j'étais super heureuse. Au contraire, moi, je ferais tout pour mes enfants, quoi. Je donnerais avant pour eux, quoi. C'est très important pour moi. Et puis moi, je leur demandais... je fais pour eux, pour les aider, mais pas le contraire, quoi.
C'est vous qui êtes là pour eux.
Voilà.
Mais est-ce que vous avez mesuré à ce moment-là l'écart, finalement, le comportement de votre mère ? Parce que quand on devient maman, c'est là, quelquefois, qu'on se rend compte à quel point ça n'aurait pas dû se passer comme ça.
Bah oui, certainement, parce que des fois, quand il se passait des choses et qu'elle me faisait des choses, et je pensais, puis je disais, bah ce serait ma fille, tu ferais ça. Bah, je dis, dans ma tête, je disais, bah non, comme c'est que je me comporterais sûrement pas comme ça avec ma fille. Mmh. Et c'est là que j'ai vu que c'est pas normal. Mais même déjà petite, je m'étais rendu compte, hein, parce que des fois, j'avais des filles à l'école maternelle et tout, et même à la primaire, des mamans qui venaient chercher leurs enfants, et je les enviais, parce que je disais, qu'est-ce qu'ils ont de la chance. Et c'est pas bien, mais c'est vrai que je disais si on pouvait changer, quoi. Je voyais qu'elles étaient aimées, que leur maman leur caressait les cheveux, enfin tout ça, ça me...
Il y avait des câlins, des bisous, tout ça.
Ah ouais, ça me faisait mal, que quand j'allais, même avant le confinement, on se faisait bonjour, mais comme ça de loin, mais on se prend pas dans les bras, je sais pas, de toute façon, je saurais pas, et elle le fait pas non plus. Tandis qu'aux deux premiers, je vois que pour l'anniversaire, j'étais là, et ben, elle leur caressait le dos, ils sont là, elle les caresse le dos et tout ça, mais... Et puis moi, j'étais là, ben non, on se fait deux bises, tout trois, et c'est fou, quoi. C'est ça, en ce moment, je repense à ça, et ça fait quand même très mal, quoi. Ça fait très mal.
À quel moment vous avez eu un déclic et vous avez commencé à faire une thérapie pour avancer sur ça ?
Quand je me suis retrouvée en retraite, parce que je me suis retrouvée toute seule ici dans l'appartement.
Ouais.
Du coup, il n'y avait plus le travail pour m'occuper la tête avec les dossiers. Alors que je m'étais dit, bah, c'est tant mieux, je vais être en retraite, je vais faire ce que je veux, ça va être super. Et non, là, tout est retombé. je me sentais vraiment pas aimée. De toute façon, j'avais même pas envie de voir des gens pour me faire aimer parce que pour moi, j'étais pas quelqu'un d'intéressant.
N'étais pas aimable,
oui. Pour moi, j'avais aucune estime de moi, aucune affirmation de moi. Donc, j'ai fait ça et c'est vrai qu'après, ça a été mieux. Après, j'ai lu un beau livre qui m'a bien aidée aussi. Parents toxiques, comment échapper à leur emprise, là, Suzanne Fowers.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai compris plein de trucs. Mais il me reste quand même la culpabilité. Vous voyez, comme là, je dis, bon, j'y vais pas, je suis contente, j'y vais pas en ce moment, c'est le confinement. Mais d'un autre côté, quand elle m'appelle, après, je suis pas bien pendant un ou deux jours, parce qu'elle arrive à, même tout en douceur, comme là, ben, là, on n'a pas eu du tout, ton pain, il nous a manqué, enfin, des choses comme ça, ou ce papier, parce qu'elle a une facture à donner à sa femme de ménage, bah, t'as pas pu le porter, enfin, je vais m'arranger. Bah,
c'est logique, puisqu'elle va être perdante dans l'histoire.
C'est
pour ça que je vous demandais tout à l'heure si quand vous prenez ce recul, ça résonne juste à l'intérieur de vous, parce que c'est ça le plus important. Si c'est quelque chose de juste, alors vous tiendrez bon.
Oui, c'est ça. Bah, pour moi, j'allais encore, parce que vraiment, je disais, bon, une fois par semaine, je le fais pour moi. Mais là, bon, ça fait des années que je le fais pour moi, mais là, j'en ai marre, quoi. Parce que même quand je rentre pour les courses, ben, elle regarde de ses papiers quand je rentre, ou elle regarde par terre, mais elle ne me regarde pas. Alors, je dis, bah, bonjour. Enfin, je fais de loin parce qu'on peut plus faire la vie de toute façon, ce qui m'embête pas. Et ils me regardent pas tous les deux. Je dis, bon, bah, je vais dans le frigo, je range les affaires. Oui. Mais voilà. Alors, j'arrive là, mais vraiment. Et si la voisine, elle vient taper, là, ah, voilà Jocelyne, nanana. Et puis, elle est gentille, hein. Enfin, ça a toujours été comme ça. De toute façon, même petite, les autres, ils étaient gentils. Les autres, ils étaient belles. Moi, j'étais pas belle. J'avais pas de beau. Enfin, c'est ce qu'on me disait, quoi. Donc, mais c'est dur quand même, alors que je le sais, hein, je sais que je dois faire le deuil de la mère que j'aurai jamais et du père que j'aurai jamais non plus.
Tiens, qui vous a dit ça?
Ben vous, je l'entends tout le temps que vous le dites, hein, et c'est vrai, hein, mais...
Nadine, est-ce que vous avez compris qu'ils ne changeront pas?
Oui, j'ai compris. Oui,
Dans le fond de votre cœur, est-ce que vous avez bien compris qu'il n'y a plus rien à attendre?
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que des fois, je suis bête. Hein. Il suffit qu'elle fait une pirouette pour, enfin, entre guillemets, pour faire semblant parce qu'elle a besoin de moi et me demander du coup et qu'elle va dire, bah si, t'es gentil. Hein. Du coup, je me dis, ah ben non, c'est peut-être.
Et hop, on se raccroche. Mais non, arrêtez de vous dévaloriser, oui. Arrêtez de dire que vous êtes bête. Non, on est tous comme ça. On est humain. Oui. Et c'est très difficile d'accepter vraiment, complètement, de comprendre qu'elle ne changera pas.
Oui, c'est ça.
Et c'est sûr que dès qu'il y a un tout petit truc, on a tellement envie, on aimerait tellement avoir la mère. Parfaite, entre guillemets, celle dont on a rêvé, que le moindre petit signe, on aimerait l'interpréter et se dire, ça y est, elle a compris, elle va changer.
Ouais.
Et là, on se prend une claque de nouveau et c'est reparti.
Oui, parce que je vois que c'est seulement quand je rends service, en fin de compte, et puis c'est tout. Mais sans ça, non, il n'y a rien qui se passe entre nous, il n'y a rien du tout, rien du tout.
Et le jour où on a vraiment compris et qu'on arrête vraiment d'attendre, alors c'est une vraie libération.
Bon, ben, je vais faire ça, quoi. Oui, donc si j'y vais, c'est parce que j'en ai envie, mais si j'ai pas envie, c'est à moi de choisir, et
ben voilà.
Et je n'y vais plus, et puis c'est tout.
Et si vous flanchez, vous me rappelez que je vous remette sur le droit chemin.
Oui, d'accord, bah oui, bah là j'avais besoin d'un petit peu qu'on me... Pourtant j'avais encore écouté, mais j'ai dit, bah ça va pas aujourd'hui, je suis pas bien, je sentais que... Puis en plus, c'est ce qui est le pire aussi, donc ma mère, et quand c'est comme ça, la troisième, pourtant celle qui est mal vue, elle me téléphone aussi des fois pour faire son petit quinquin. Bah t'appelles pas et tu fais pas, nana. Mais quand elle appelle, c'est pour être méchante, elle. Alors, donc, c'est pas la peine non plus. Mais donc, c'est vrai que je crois que je vais la bloquer, elle, pour qu'elle laisse plus de messages, parce que c'est toujours des messages méchants.
Et je pensais à quelque chose en vous écoutant. Vous me disiez que vous aviez commencé votre thérapie au moment de la retraite.
Oui.
Et j'étais en train de me dire que finalement, ce confinement, c'est un peu aussi une retraite.
Oui.
Il y a plein de couples qui me disent on teste comment ce sera quand on sera à la retraite, d'être ensemble sans travailler.
Oui, c'est vrai, pour des personnes comme ça, ça fait aussi une retraite, oui, c'est vrai.
Et je pense que c'est pas anodin aussi que les choses remontent en ce moment, parce que c'est forcément aussi une introspection.
Oui, c'est ça, hein. C'est vrai que, bah oui, parce que...
On perd tous les repères habituels, donc il faut qu'on s'en crée d'autres.
Oui.
Et il y a comme un flottement.
Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que donc on pense beaucoup, on pense énormément, et c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu les choses à leur place, en fin de compte.
Ça peut être aussi l'occasion de le faire.
Oui, et j'allais vous demander, l'anorexie 6 à 9 ans, c'est parce que je voulais qu'il s'occupe de moi ou je ne sais pas? Parce que je ne le faisais pas exprès, hein, j'avais vraiment pas faim. Hein.
Bien sûr, vous ne le faisiez pas exprès. Aucun anorexique au monde ne le fait exprès, contrairement à ce que certaines personnes croient. Oui. C'est un sujet extrêmement sensible, l'anorexie. Moi, je trouve qu'il est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe dans la place, effectivement, la place qu'on a dans cette famille ou qu'on n'a pas.
Ouais, c'est ça.
Et dans le rapport à maman.
Ouais, c'était ça.
C'est un angle qu'il faut évidemment aborder aussi.
Mmh. D'accord. Bah oui, la place, je voyais qu'elle n'était pas du tout attirée par moi. Pas du tout, du tout.
Non,
non. Donc, c'est bien ça, quoi. Et c'est marrant parce qu'une fois, elle m'a fait rendre des papiers à elle. Et en fin de compte, j'ai retrouvé de. Moi, je lui faisais pour la fête des mères, tout ça, en plus des cadeaux de l'école et tout, je lui faisais des beaux dessins, je faisais des trucs magnifiques, je lui marquais que je l'aimais. Puis elle me dit, je comprends pas, il y a que toi qui faisais ça. Mais maintenant, je comprends. Moi, je lui faisais parce que justement, j'avais tellement envie qu'elle m'aime. Et comme elle le faisait pas, je m'en faisais plus que les autres, quoi.
Mais oui. Pour en revenir à vos pensées, vous me disiez en ce moment j'ai plein de pensées qui tournent. C'est pas forcément un mal, c'est juste qu'il faut arriver à faire le tri dans ses pensées et se tourner vers des pensées positives.
Bon, d'accord.
Et ça peut, c'est un exercice quotidien, mais ça peut se faire.
Ouais, d'accord. Au contraire, vous devez voir que au contraire que j'ai su moi quand même me retirer
voilà,
quoi.
Et ben
deux.
Voilà.
C'est déjà pas mal parce qu'avant, c'est vrai que j'y allais tous les jours. Dès qu'elle appelait, que ça n'allait pas, qu'elle avait un petit truc, elle savait me l'appeler 3 fois par jour et je courais. Que maintenant, c'est 1 fois par semaine. Donc, c'est vrai que j'ai fait des gros progrès. Et puis, je vois les choses autrement parce que maintenant, j'arrive quand même à voir comment elle fait pour se. Voilà, pour me. Elle est fine, hein, qu'elle, pour me manipuler, hein, je le vois maintenant. Donc, ouais, c'est ça. Bon, ouais, je vais faire attention comme ça. Et puis ça, plus vos émissions, ça va aller, je suis repartie.
On a rechargé les batteries, alors c'est bon.
Oui, oui, je vous remercie, si ça va aller.
Bon, j'en suis ravie, Nadine.
Et je vais continuer à vous écouter tout le temps, j'adore.
C'est gentil, je vous embrasse très fort.
Moi aussi, je vous embrasse très fort et tous les auditeurs. Au revoir.
Au revoir, Nadine. Et c'est Sophie que j'accueille maintenant avec grand plaisir. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Bienvenue à vous.
Alors, Maxime me dit qu'on se connaît. Racontez-moi, remettez-moi ça en mémoire, s'il vous plaît.
Alors, je vous remets en mémoire. Je vous ai appelé au sujet de mon fils Jean-Baptiste, avec qui les relations étaient très difficiles. Mais chaque fois que j'appelais, il venait. Et c'est ça que vous m'avez dit, c'est d'une ambiguïté totale. Et en fait, Jean-Baptiste va beaucoup mieux.
Bon.
Il va beaucoup mieux. Je vous avais parlé un soir de détresse où j'avais plus rien à manger. J'avais pas mangé pendant 48 heures. Et vous m'aviez dit, mais il y a des associations, Sophie, il faut y aller. Et j'étais désespérée ce soir-là. Voilà. Pour vous remettre dans l'ambiance du moment.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jean-Baptiste aille mieux?
Je vais bien.
Ah oui, bien sûr. Forcément,
je vais bien.
Par effet miroir, il va mieux aussi.
Et par effet miroir, il va mieux. Il n'y a qu'une seule ombre tableau, c'est que on a appris que mon père était atteint de la maladie d'Alzheimer.
C'est un monsieur qui a quel âge?
C'est un monsieur qui a 85 ans.
Oui.
Et qui commence à être complètement à côté de ses pompes, qui fait beaucoup de bêtises, qui perd énormément les choses, qui commence à vouloir partir sans dire où il va, qui commence à faire des caprices. Qui ne comprend rien à la télévision. Mais je suis partie juste avant le confinement, j'ai eu l'impression de l'abandonner.
Vous êtes partie où ça?
Chez moi, je suis retournée à mon domicile.
Et lui, il est tout seul chez lui?
Alors que j'étais chez mes parents.
Ah oui, d'accord. Et lui, il est avec votre maman?
Il est avec ma maman, il est avec mon fils, c'est ça qui me chiffonne. C'est que Jean-Baptiste, pour faire des économies, a choisi de vivre quelques temps chez mes parents pour mettre de l'argent de côté et s'acheter un appartement. Donc Jean-Baptiste est aux premières loges.
Mais pourquoi ça vous ennuie?
J'ai peur que ça influence son moral difficilement.
Ah, c'est sûr que c'est difficile, mais ça fait aussi partie des choses de la vie. C'est son grand-père.
C'est son grand-père, oui. Je sais bien que c'est son grand-père. Et Jean-Baptiste a déjà 30 ans et est en âge de le supporter.
Est-ce qu'il vous en parle? Est-ce que ça lui pose un souci à lui? Ou c'est plus vous
il
qui vous inquiétez?
Il m'en parle jamais. C'est un taiseux qui ne parle jamais. Il me dit non, ça va, je t'assure que ça va. Ça se passe bien.
Oui,
mais
alors...
jamais il donne son sentiment. Il dit bah, qu'est-ce que tu veux, ça devait arriver. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà ce qu'il me dit, c'est très peu d'informations.
Alors attention, parce que peut-être que vous reportez vos émotions sur lui quand vous me dites que vous vous sentez coupable d'avoir laissé votre père comme ça. Peut-être que finalement, pour votre fille, ça se passe pas si mal que ça.
Ouais, peut-être.
Vous m'auriez dit...
Mais j'ai jamais dit à Jean-Baptiste que je me sentais coupable. Hein.
Non, j'ai bien compris, mais peut-être que comme vous voyez les choses un petit peu à travers ces émotions-là, vous avez plus peur pour lui que lui-même, finalement.
Probablement. J'ai surtout peur pour mon père. Je vois qu'il fait tellement de conneries que je tremble en permanence de le voir faire des bêtises. D'abord, j'ai peur de le voir tomber sur ses jambes. Il prépare du thé, j'ai peur qu'il s'y bouillante. Il regarde la télévision, j'ai peur qu'il dise je comprends strictement rien du tout. Il ne sait plus allumer la télévision. Il me demande tout.
Mais vous me dites que vous ne vivez pas avec lui?
Non, je ne vis plus. Je suis restée chez mes parents 3 semaines. Et puis j'ai fui comme une voleuse, je suis partie et 2 jours après c'était le confinement.
D'accord. Mais j'imagine qu'il est pris en charge, votre papa. Il y a un médecin, qu'il suit un neurologue?
Alors, il a vu un neurologue après avoir fait un IRM qui lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Qu'il fallait qu'il fasse des exercices de mémoire.
Il n'y a rien à faire, mais quand la situation se dégrade, à bout d'un moment, il y a une prise en charge.
Qu'est-ce que vous appelez une prise en charge?
Il devra malheureusement être en EHPAD. En institution, parce qu'il va devenir un danger pour lui et pour les autres.
Il commence déjà à devenir un danger pour lui-même.
C'est pour ça, et je pense que même pour votre maman, ça serait beaucoup plus sécurisant qu'il soit encadré.
On n'en est pas là parce qu'elle va le garder jusqu'au dernier moment, telle que je la connais.
Oui.
C'est une femme qui a le sens du sacrifice et du devoir. Jusqu'à s'en pour lâcher les babinettes, elle est folle de ça.
Jusqu'à quoi, pardon, j'ai pas compris.
Elle est folle de ça. Folle de... le devoir... le sacrifice, elle va le garder jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à temps qu'elle n'en puisse plus.
Et votre maman, je vous ai pas demandé quel âge elle a.
Elle a 80 ans, mais elle est en pleine forme.
Heureusement.
Oui. Elle tient tout ce petit monde à bout de bras. Ce qui ne m'empêche pas de ne pas l'aimer. J'arrive pas à l'aimer. Nous sommes trop antinomiques. Elle m'a fait trop de mal, beaucoup trop de mal. Et je vois même dans la façon qu'elle a de s'occuper de mon père, elle perd patience, elle l'engueule, elle a pas encore, semblerait, elle accepte pas la maladie. Elle accepte pas la maladie.
Mais elle vous le dit ou c'est quelque chose que vous pensez, vous?
Ah ben c'est quelque chose que je constate.
Ah.
Je constate, c'est un fait. Déjà, moi, j'étais bipolaire, elle n'a jamais accepté. Elle me l'a dit un jour, j'ai jamais accepté d'avoir une enfant malade.
Ouais.
Ça, elle me l'a dit, elle me l'a balancé dans la figure. De même qu'elle ne supporte pas de voir mon père malade. C'était un grand homme. Un grand ingénieur, et il y a 10 ans, il a fait une pancréatite aiguë gravissime. Il a failli mourir, et j'aurais préféré, avec du recul qu'il y passe, plutôt que de vivre tout ce qu'il va vivre.
C'est-à-dire que là, maintenant, qu'elle l'accepte ou pas, votre mère, elle va bien devoir le supporter.
Oui, elle va bien devoir le supporter. Ça, c'est clair. Mmh. Ça, c'est clair. Déjà, il ne sait plus signer un carnet de chèques. Il va être mis sous tutelle là, dans les jours qui viennent. Ma mère a la signature, donc elle signe tous les chèques. C'est elle qui s'occupe de tout. Il est incapable de rien faire. Hein. Oui. Il est incapable de rien faire.
Et vous avez l'impression que ça a évolué très très vite, là, d'un seul coup, cet Alzheimer?
Ça a été vertigineux. Ouais. Nous avons écouté, il y a eu un... Je ne sais pas si dans la maladie d'Alzheimer, il y a des facteurs déclenchants. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il cafouillait dans la choucroute. On a mis ça sur le compte d'une très mauvaise audition.
Ah oui.
Le fait qu'il n'entende pas, qu'il ne comprenne pas, qu'il soit toujours... qu'il ait des réponses inappropriées. On a mis ça sur le compte de la surdité. Et puis, il a commencé d'aller très mal cet été. Et puis, ma grand-mère, qui a 107 ans, est morte. Et depuis, c'est la débandade.
C'était sa mère à lui ?
C'était sa mère à lui.
Oui. 107 ans, on dit.
107 ans, oui. Ça a été une délivrance pour tout le monde, madame. Ça a été une délivrance pour tout le monde, Sabine. Elle a agonisé pendant 2 mois.
Ah, c'est moche, ça.
Ça a été affreux. Elle hurlait du matin jusqu'au soir.
Pourquoi ils l'ont pas apaisé?
Eh bien, finalement, une nuit, pendant 2 soirs de suite, l'équipe de soins palliatifs est venue et a fait ce qu'il fallait. Mais on l'a laissé agoniser pendant 2 mois.
Oh.
Ça a été horrible.
Et vous pensez que ça a pu être un facteur déclenchant pour votre père, ça?
J'ai l'impression que tant qu'elle était là, il sentait encore le chef de famille. Et puis quand elle est partie, il s'est senti le droit d'être malade, je crois. J'ai cette impression.
Oh, c'est tout à fait possible. Le moral joue énormément hein, sur toutes les maladies.
Je me pose la question. Très franchement, je me pose la question. Il n'a pas montré de chagrin, mais particulier, il ne s'est pas mis à pleurer. Il n'a pas manifesté de ce genre d'émotion-là, parce qu'il était comme tout le monde, il était soulagé, mais il était complètement à côté de la plaque. Mmh. Il ne reconnaissait même plus les amis qui venaient le voir. Il y a des gens qui sont déplacés pour venir le voir, ils ne se souvenaient plus de leur nom. J'étais très gênée, je n'avais plus où mettre. Et je dis à papa, mais si tu sais, c'est Raymond, il vient d'où? Mais tu sais très bien, il vient de Brive. Ah oui. Et lui, c'est qui? Il ne reconnaissait plus ses copains. Il ne reconnaissait plus ses copains.
Et est-ce que par moment, il a des périodes où il est lucide, où il est conscient de ce qui lui arrive?
Oui, alors on se téléphone tous les soirs.
Ouais.
On maintient le lien. Je l'appelle le soir vers 6 heures. Et il me dit bonjour, ma Sophie, comment vas-tu? Que deviens-tu? Qu'est-ce que tu fais de tes journées?
Donc là, il est vraiment là. Hein.
Oui, là, il est vraiment là. Ouais. Il est vraiment là. Et ça dure 5 minutes, hein, c'est pas beaucoup. Mais c'est 5 minutes...
C'est précieux.
C'est précieux et ça me réconforte. Et puis, il est toujours très heureux qu'on l'appelle.
Ouais, ça, c'est une bonne chose.
Il est toujours extrêmement heureux qu'on l'appelle. Et j'aimerais bien que mes frères et sœurs, nous sommes 5 dans la fratrie, en fassent un peu plus quand même.
Ouais, j'entends souvent ça, que c'est celles qui ont été mal aimées qui en fait le plus.
Ben, écoutez, moi j'étais l'enfant terrible, bipolaire, non soigné, pas diagnostiqué. J'en ai fait des RTD, des pâmeurs, croyez-moi. J'en ai fait de toutes les couleurs. J'ai vu comme un trou, fumé comme un pompier. J'ai fait toutes les conneries de la terre. J'étais l'enfant terrible. Et finalement, ben, c'est moi qui suis le plus proche de mes parents maintenant.
Et vous voyez, comme quoi...
Oui, comme quoi, ça veut strictement rien dire du tout.
Est-ce que vous, entre frères et sœurs, vous parlez de cette maladie d'Alzheimer?
Alors, ma mère ne veut pas qu'on prononce ce nom devant mon père.
Ah oui, mais vous pouvez en parler sans être devant lui.
Est-ce qu'on en parle? Non, elle ne veut pas prononcer le mot. Elle ne veut pas prononcer le mot. Elle dit... L'état de santé, elle dit physiquement l'état de santé de ton père.
C'est curieux, ça, comme si ça allait changer quelque chose à la maladie de ne pas prononcer son
ah,
nom.
Ah, mais c'est une dame qui adore le nom dit.
Ah, ben oui.
C'est une dame qui adore le nom dit et elle vient d'une famille de culture judéo-chrétienne où ça ne se fait pas de parler de soi. Ça ne se fait pas de parler.
Mais vous, entre vos frères et vos sœurs, est-ce que vous en parlez de ça? Est-ce que vous vous posez des
bien
questions
sûr,
sur l'évolution
parlons,
sur
la... Bien oui. sûr, nous en parlons, parce que tout le monde voit qu'il perd pied.
Ben oui.
Et bien sûr qu'on en parle. Mais ils sont très, très loin de... Je suis la seule à aller le voir et à être proche de lui et à aller aussi longtemps et aussi souvent. Ils mènent des vies tranquilles, loin. Ils vivent les choses de très loin. Mmh. Ils vivent les choses de très loin.
Est-ce que ça vous fait peur, là, ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour lui?
J'ai terriblement peur.
Oui.
Je tremble. J'ai très peur de ce qui va se passer... J'ai très peur de voir sa déchéance, que je vois déjà.
Oui.
Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et moi et l'inconnu, ça fait deux. Je sais qu'il va devoir être placé un jour ou l'autre. J'espère qu'il partira avant. J'espère qu'il partira avant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quoi. Mais j'ai pas envie de voir sa déchéance.
Oui, bien sûr.
Ça me fait terriblement peur.
Alors justement, j'étais en train de me dire, pour ne pas être trop dans l'inconnu, vous pourriez contacter l'association France Alzheimer.
Oui, ben, faudrait qu'ils répondent au téléphone, ils répondent,
Bah oui, en ce moment, c'est peut-être compliqué, effectivement.
Ils ne répondent pas au téléphone. J'ai leur numéro de téléphone. Je tombe sur un répondeur qui me dit qu'il y a trop de messages qu'ils ne peuvent pas prendre.
Oui, je suppose qu'avec le confinement, ils ne sont pas sur place non plus, donc ça doit compliquer les choses aussi pour eux.
Ouais. Ça doit compliquer, ouais, voilà. Alors, j'aimerais bien les contacter. D'ailleurs, je vais reprendre leur numéro de téléphone si vous voulez bien.
Je ne l'ai pas sous les yeux là, non, je vous avoue que je le cherchais en vous parlant, je ne le retrouve pas dans mes archives là pour l'instant. J'ai demandé à Maxime de me trouver ça. Maxime, tu peux me trouver le téléphone de France Alzheimer, s'il te plaît. Merci. Je vous donne ça dans une petite minute. Maxime le cherche pour
d'accord,
vous.
D'accord, oui, oui.
Parce que justement, je pense que pour l'entourage, c'est une des maladies les plus difficiles à aborder. Et vous avez raison quand vous dites...
Parce que ne pas savoir dans cette maladie.
Exactement, oui. Ne pas savoir l'inconnu fait très, très peur. Et des gens...
Ça me fiche la trouille parce que... Je vois se dégrader de jour en jour, et puis c'est de jour en jour. Hein.
Oui, ça peut aller très vite, malheureusement. Oui.
Ça va très vite. Hein. Ça va depuis le mois d'août. Ça va fissa.
Oui.
Ça va très, 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 très vite. Alors, de temps en temps, ma mère fait preuve de pédagogie. Des fois, elle ne fait pas preuve de pédagogie. Elle crie.
Avec vous ou avec lui?
Avec lui.
Ah oui.
C'est une femme qui... Elle crie. C'est terrible. J'ai jamais vu une femme crier comme ça. Je n'ai jamais levé, du coup, je n'ai jamais levé le ton de ma voix. Jamais.
Ah, souvent, quand on a été élevé par une maman qui crie, on ne crie plus du tout derrière. On est vacciné à vie.
On est vacciné à vie. Je ne lèverai jamais le ton de ma voix.
Ouais.
Voilà. Mais c'est surtout, je suis tétanisée par mon père, tétanisée par le nombre de conneries qu'il fait à la minute. Il perd tout. Ses lunettes, ses clés, son portefeuille, son carnet de chèques, sa carte bleue. Il oublie ses codes.
Oui.
On ne peut rien lui laisser. On ne peut rien lui laisser.
Et là où ça devient très dangereux, c'est quand ces personnes-là se mettent à oublier d'éteindre le feu, le gaz, l'électricité, la cuisinière.
Alors, heureusement, il n'a jamais fait de cuisine de sa vie.
Ou qui laisse des choses ouvertes, la porte de la maison. Enfin, oui, c'est des choses comme ça, quoi, qui deviennent vraiment dangereuses.
Voilà. Et le jour, il cherchait partout ses clés, elles étaient sur la porte de la maison.
Et oui.
Voilà. Et puis, il avait oublié ses clés aussi dans la boîte aux lettres.
Il peut laisser l'eau couler, faire des choses comme ça qui petit à petit deviennent vraiment très, très handicapantes, quoi.
Ouais. Ça, il arrive à être autonome, il fait sa toilette tout seul. C'est déjà pas mal.
Oui. Alors, Maxime a retrouvé le téléphone de France Alzheimer. Vous vérifierez déjà si vous avez le bon. Je pense que oui, puisque vous tombez sur le répondeur. Mais je vous le redonne quand même. Vous avez de quoi noter, Sophie ?
Oui, j'ai de quoi noter, Sabine.
Alors, 01.
Oui.
42 97.
Oui.
52 41.
D'accord.
Parce que c'est toujours pareil, ce sont des gens qui ont l'habitude et qui peuvent aussi vous orienter vers peut-être des groupes de parole ou d'écoute, ou donner des conseils pratiques.
Des groupes de parole et d'écoute me feraient plus grand bien.
Oui, je pense. Effectivement, des gens qui sont confrontés à la même situation, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Et non, c'est surtout ce qui fait très peur, c'était un homme qui était très sécurisant. Et c'est de voir que maintenant, on est obligé d'avoir peur pour lui. C'est un inversement total des rôles. Et moi, je le materne beaucoup.
C'est-à-dire que là, il y a déjà un travail de deuil à faire. C'est-à-dire que vous allez devoir faire le deuil du père qu'il était, de l'homme qu'il était. Il est toujours en vie, mais
il
n'est plus cet homme-là et il ne sera plus jamais cet homme-là.
Il ne sera plus jamais cet homme-là.
Et c'est vraiment une étape à franchir, ça.
Je l'ai compris, je l'ai déjà compris.
Ouais.
Et je crois que je l'accepte.
Bon.
Je crois que je l'accepte.
C'est le seul moyen d'avancer, hein, c'est de franchir ces étapes-là d'acceptation, aussi dures soient-elles. Parce que ça reste quand même, une fois qu'on a passé ça, on se libère un petit peu pour continuer à avancer. On perd plus son énergie, à essayer de retrouver quelque chose qui ne reviendra plus.
Non. Ça, j'ai bien compris qu'il ne reviendra plus jamais en arrière.
Et donc, quand on a accepté ça, alors on dirige son énergie vers qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai encore, ce qui me reste.
Le problème, c'est que, heureusement, il dort 18 heures par jour.
Ah oui, dis donc, c'est beaucoup, ça.
Oui, c'est beaucoup. Il dort énormément. Il est terriblement fatigué et fatigable. Et il dort 18 heures, 15 à 18 heures par jour. Et ça nous soulage de beaucoup de choses parce que pendant ce temps-là, au moins, on peut se reposer, nous.
Puis au moins, il est en sécurité quand il dort.
Et il est en sécurité.
Oui.
Voilà.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils ne vous reconnaissent pas, ou ne serait-ce qu'au téléphone ?
Alors, c'est arrivé une fois, à ma mère, elle a dit, mais c'est pas Sophie. Sophie est beaucoup plus grosse que je. J'ai perdu 70 kilos.
Ah oui, donc il a raison en même temps.
Oui, mais ça fait longtemps maintenant. Il a dit à ma mère, mais...
Il est resté sur l'ancienne image.
Sur l'ancienne image, il a dit, mais c'est pas Sophie, c'est pas elle.
Ouais.
Maman, j'ai dit, mais si, c'est Sophie, écoute. Tu la reconnais bien. Ah oui, mais elle est en pleine forme.
Eh oui.
Il m'avait pas reconnu.
Il a si, il vous a reconnu.
Il était persuadé que mon fils était mon frère.
Et il a superposé le passé et le présent, quoi.
Oui, il a supposé que Jean-Baptiste était mon frère.
Oui, c'est ça, il est resté à l'époque. Il est resté coincé dans cette époque-là.
Il est resté coincé dans une époque. Oui. Et puis, de me voir toute mince, il n'a pas d'habitude. Surtout que je suis 52 kilos maintenant.
Ah oui, dis donc, vous n'êtes pas épaisse.
Non, je ne suis pas épaisse. Je fais du 36, du hyper small, voire même du 16 ans. J'ai essayé un pantalon de jogging et je suis allée dans une boutique où ils vendaient des joggings. Ils vendaient des joggings, ils n'avaient pas le droit de faire, mais ils ont quand même ouvert la boutique. Et j'ai réussi à trouver un jogging du 16 ans.
Ben oui, avec ce poids-là, ça ne m'étonne pas. Et vous mesurez combien ?
Je fais 1m57.
Ah oui, un tout petit bout de bonne femme alors.
Un petit bout de bonne femme, oui. Oui.
Mais vous êtes bien dans votre peau, ça vous convient ce poids-là ?
Ouais, ce poids-là me convient très bien, parce que j'ai toujours été habituée à être très mince et j'ai pris du dépacote dans ma vie qui m'a fait grossir de façon spectaculaire.
C'était le traitement pour la bipolarité.
Pour la bipolarité.
Oui, bien sûr.
Et la dépacote m'a fait prendre des kilos et j'étais avec un monsieur qui m'achetait. Et pour m'acheter, il m'a amené au restaurant, ce qui fait que j'ai grossi.
Bon, là, vous avez repris le contrôle de ce côté-là.
Ah, ça, j'ai repris un contrôle complet. J'ai bien le contrôle de toute ma vie. Et j'irais même jusqu'à dire que j'ai le contrôle de mon père, sauf que j'ai peur. J'ai peur pour lui et j'ai peur de ce qui va arriver.
Et bien sûr.
Et puis, j'en ai pas envie. J'ai pas envie.
Bien sûr, personne n'a envie de ça pour ses proches.
Oui, j'ai pas envie de ce qui va.
J'espère vraiment que la génération précédente, la génération qui nous succède, suivante, ils trouveront quelque chose pour lutter contre ça.
Ah oui, vraiment.
Alzheimer,
vraiment.
Parkinson, tout ça, qu'on en finisse avec ces saloperies.
Qu'on en finisse avec ces saloperies, parce que j'ai une amie qui a la maladie de Parkinson. C'est quelque chose, elle vit pas si mal que ça, mais les tremblements, c'est l'horreur, elle flanque tout par terre.
Ouais.
Elle flanque tout par terre.
Ben, je sais que dans les deux domaines, la science fait beaucoup de progrès, mais pour l'instant, pas encore assez.
Oui, puis maintenant, on est bloqué sur le Covid, on ne fait plus aucune recherche pour rien dire.
Ah ben, pour l'instant, on est un peu dans l'urgence, ça c'est vrai.
On fait plus d'efforts pour les autres pathologies. C'est normal, parce que...
C'est-à-dire, si on meurt tous du Covid, il n'y aura plus grand-chose à chercher sur le Parkinson et Alzheimer derrière.
Oui.
Je rigole, c'est une question de priorité pour l'instant, c'est normal.
La priorité, c'est quand même c'est le Covid. Parce que je ne supporte plus le Covid.
Ouais, je crois que vous n'êtes pas la seule.
Quand on en parle à la télévision, je change de chaîne.
Oui. En tout cas, pour en revenir à votre papa, je pense que c'est une très bonne idée d'appeler, de continuer à appeler France Alzheimer jusqu'à ce qu'il décroche, qu'il vous réponde.
Oui.
Et de trouver vraiment, demander même peut-être au neurologue s'il ne connaît pas des groupes de parole. Je pense que ça vous ferait du bien de partager avec des gens qui sont passés par là et qui pourraient vous éclairer un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop d'inconnus.
C'est ce que je recherche, des groupes de parole surtout.
D'accord. Ben, si jamais on a des gens qui ont des contacts, on vous les transmettra si vous le voulez bien.
Eh bien, écoutez, je serai donner mon numéro de téléphone et je serai ravie d'avoir des témoignages.
Ben, je vous promets qu'on le fait, Sophie. Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter ça.
Merci. Merci, Sabine.
Et je me permets de vous embrasser très fort.
Et moi, je vous embrasse très, 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 très fort, Sabine.
Bien reçu. Merci, Sophie. Au revoir.
Au revoir.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Il est l'heure de refermer la page de cette émission. Nous en ouvrirons une autre, si vous le voulez bien, demain soir à partir de 23h. Je vous quitte avec la phrase du jour. L'amour ne donne aucun droit sur l'autre, seulement le devoir de le respecter. Je vous laisse méditer là-dessus, passez une très bonne nuit et à demain soir 23h sur Europe 1.